vous avez aussi l'impression que nous avons un regard schématique sur l'Algérie quand vous entendez ce qu'on dit à la fin, lors de débats ou de discussions, soit autour du film, soit autour de ce qui se passe en Algérie?
Oui, parfois il y a une vision un peu schématique qui est façonnée par les médias. Si je dis à n'importe quel auditeur Algérie, il a presque un stéréotype de l'Algérie, façonné par les médias. C'est l'actualité, c'est l'islam, c'est les femmes, c'est l'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lieu commun comme ça qui s'est fait autour de l'image de l'Algérie. Et parfois, quand il vient voir des films algériens, il essaie de retrouver cette image qu'il a déjà, qui est façonnée dans sa tête. Et il peut être étonné de ne pas retrouver l'image qu'on lui donne. Vous avez été à Créteil et vous vous souvenez de tout cet immense forum qu'est Créteil. Et j'ai eu des remarques sur le film de la jeune fille noire qui appartient à la confrérie religieuse où on me dit « mais c'est pas possible, c'est pas ça l'islam. Cette fille a l'air tellement libre. » Parce qu'il y avait une image de l'islam et des femmes qui vivent dans les pays musulmans, une image complètement faite de la femme écrasée, dominée, voilée, enfermée. C'est-à-dire toute une série d'images qui s'étaient faites et que certaines confortent d'ailleurs. Et quand on donne une autre image de l'Algérie ou une autre image d'une jeune femme musulmane, on a l'impression qu'elle n'est pas conforme à l'attente du public et que par conséquent, elle est entachée. On a même une certaine attitude de suspicion vis-à-vis d'images qui ne correspondent pas à l'attente du spectateur quand il est... quand il est dominé par une certaine vision des choses. La même chose pour l'Iran, on peut prendre l'exemple de l'Iran. Beaucoup de gens ont des préjugés sur la production cinématographique de l'Iran et parfois ils découvrent émerveillés des purs produits esthétiques, des choses extraordinaires de ce cinéma. Et c'est vrai qu'on oublie que c'est un pays qui a presque une centaine de réalisateurs et que c'est un métier qui se renouvelle, qu'il y a des dizaines et des dizaines de films qui sont produits chaque année par ce pays. C'est-à-dire que, disons que derrière le voile islamique cette fois, derrière le voile de ces sociétés, on oublie qu'il y a autre chose.
Mais finalement, notre seul moyen à nous de nous informer ici, c'est de vous écouter. Donc, c'est la parole qu'on donne à des femmes qui passent, à des femmes comme vous qui font un certain travail, qui nous offrent des images, ou à des hommes, bien sûr. Mais finalement, on a une sorte de mosaïque de témoignages et c'est notre seule façon de pouvoir nous faire un avis. Est-ce que ça vous semble être une démarche erronée?
Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous a semblé que je disais ça?
Non, pas du tout. Mais quel moyen, finalement? Parce que c'est vrai que la presse elle-même, qui se veut l'écho de l'actualité, est souvent mal informée ou outrée. On ne sait pas très bien. Nous-mêmes, comme lecteurs, on ne sait pas très bien. Et puis, nous qui rencontrons un certain nombre de personnes qui viennent d'Algérie, on s'aperçoit qu'un témoignage, ça ne suffit jamais, qu'il en faudrait 20-30 pour arriver à avoir une vision à peu près correcte de la réalité.
Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que les rapports entre le nord et le sud de la planète sont tels que nous, gens du sud, nous vous connaissons mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire que les rapports sont tels que, bien que nous soyons si éloignés, nous nous sentons plus informés de ce qui se passe chez vous, de ce qu'il y a. Nous aussi, on a une certaine image de l'Europe et tout, mais... on en sait plus, nous, sur vous. Bon, d'abord, on connaît votre langue. On la parle, donc on peut communiquer avec vous, chose que vous ne connaissez pas toujours. Et puis la langue, c'est un moyen tellement puissant de communication et de connaissance de l'autre. C'est-à-dire que les pays du Sud sont plus armés pour vous découvrir que vous pour nous découvrir. C'est-à-dire que souvent, nous restons, pour l'Europe, un objet de questionnement. Et c'est vrai, ce qui fait plaisir, c'est de rencontrer des journalistes qui font l'effort de connaître avant de questionner, qui sont déjà informés, qui ont des repères, qui essayent de compléter leur image et par conséquent compléter aussi l'image des auditeurs. Ça, c'est important. De toutes les questions que vous m'avez posées, à l'évidence, vous en savez beaucoup plus que ce que vous me demandez comme information. Non ?
Au fur et à mesure de diverses rencontres, mais je m'aperçois aussi effectivement que, après avoir vu, entendu quelqu'un, si je fais référence à cette rencontre à quelqu'un d'autre, des fois on me dit, mais pas du tout, c'est pas comme ça. Donc je m'aperçois que la première rencontre n'est de toute évidence pas suffisante.
Oui, et puis c'est vrai que les opinions sont tellement différentes. J'ai assisté la dernière fois au débat où vous étiez présente et quand vous avez fait juste une remarque, vous vous souvenez, après la projection du film, il y a eu une réaction très vive qui paraissait même disproportionnée. Moi, je suis restée assez curieuse. Une réaction d'une jeune femme algérienne dans la salle vis-à-vis de votre remarque. J'ai trouvé cette attitude disproportionnée, donc je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça peut cacher? C'est-à-dire, j'étais intéressée, pas tant par votre question que par sa réaction.
Précisons juste pour nos auditrices que j'avais donc dit que, à la sortie d'un débat sur l'Algérie, j'avais posé une question lors d'un débat avec des jeunes Algériennes, d'essayer de comprendre comment se passaient aujourd'hui les relations entre garçons-filles, qu'on m'avait dit tout va très bien, et qu'en plus à la sortie, je me suis fait agresser par d'autres jeunes femmes me disant « Mais pourquoi vous avez toujours l'air de dire que c'est l'horreur en Algérie ? Ça se passe très bien chez moi. » Mais enfin, ce n'est pas tellement ce qu'elle me disait qui était important, mais c'est la façon dont elle m'agressait. Et effectivement, cette jeune femme m'a de nouveau dit « Mais c'est parce que vous voulez toujours... Nous, on réagit pour défendre notre pays. » C'est comme ça qu'elle m'avait répondu aussi dans ce deuxième débat auquel vous faites référence.
Oui, ben moi qui observais comme ça de loin, qui n'était pas du tout impliquée dans le débat, je trouvais sa réaction excessive d'une part. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut cacher? Pourquoi une telle vivacité? C'est-à-dire, que peut cacher cet élan nationaliste? Vraiment, je me suis posé des questions. D'autant que quand on vit là-bas, on sait que tout n'est pas rose et que ça ne va pas bien. Donc, bon, je m'étais dit, pourquoi? Pourquoi cette réaction aussi vive? Bon, j'en suis restée à ma question parce que, bon, j'ai quelques hypothèses, mais j'attendrai de les vérifier pour...
Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on sera aux hypothèses. En tout cas, Nadia, merci beaucoup parce que ce que nous avons pu échanger rajoute effectivement quelques pierres à la mosaïque de notre connaissance sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, et en particulier par l'intermédiaire de la voix des femmes, parce que c'est vrai que dans une femme, c'est ce qui nous intéresse surtout. Merci beaucoup.
Je vous remercie. I'm gonna tell you.
Sheikha Remeti, que vous entendez en ce moment, est une chanteuse algérienne qui est quasiment une des premières femmes, une des premières personnes qui ont chanté le raï. Le raï, eh bien aujourd'hui on connaît ça bien avec les Cheb Khaled, Cheb Kader, Cheb Mami et autres. Eh bien, il faut savoir que le raï a son origine dans les années 20 et qu'alors qu'on entendait plutôt de la musique très classique qui se jouait dans les fêtes organisées par les notables ou l'occupant, eh bien, à un moment donné, on a invité un petit peu le petit peuple, comme on disait à l'époque, le petit peuple des campagnes qui était surtout composé des gens les plus défavorisés et qui en avait ras-le-bol d'entendre tout le temps cette voix grave et monotone des musiques classiques. C'était tous des gens qui en plus ne comprenaient rien à l'arabe classique puisque c'était des analphabètes qui n'arrivaient pas à mémoriser les vers qu'il aurait fallu chanter. Donc, ulcérés par cet élitisme et ce paternalisme de toutes ces chansons, eh bien, ils ont décidé de réagir. Et à cette pratique musicale hyper rigide et savante, eh bien, ils ont voulu faire tout à fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus vif et avec un phrasé très particulier. Et alors il y a beaucoup d'hommes qui ont participé à ce type de chant qui surtout, visaient à évoquer leur propre misère, les injustices qu'ils observaient. Ils vivaient à l'intérieur d'une société fondée beaucoup sur le non-dit et l'interdit, où hommes et femmes se croisent bien sûr sans se frôler, on connaît encore bien ça aujourd'hui hélas, sans se parler à cause des groupes de pression sociaux. Et même les regards troublants qu'ils arrivent parfois à échanger en douce, eh bien, sont jugés bien sûr non conformes selon les valeurs de l'islam, qui déjà était une idéologie triomphante malgré la présence de le colonial. Donc je vous rappelle, on est en 1920. Et puis, ces bergers chanteurs, ils avaient besoin d'un exutoire, d'un défouloir, et en quelque sorte pour conjurer le mauvais sort. Alors ils se sont mis à squatter les souks et à jouer dans les fêtes pour transmettre leur chant et leur rythme, en quelque sorte antidépresseur, qui flattait l'ouïe et le corps des plus démunis. Et puis, durant les années 30, la nouvelle chanson, qui se passait surtout à Oran, prend un tour de plus en plus contestataire. Et dans les années 40, eh bien, cette tendance se traduira de mieux en mieux. Et tout en continuant à chanter l'alcool, la gente féminine, eh bien, certains artistes se transformeront en sorte de chroniqueurs d'histoire et parleront de plus en plus de choses du quotidien, c'est-à-dire par exemple le typhus, le marché parallèle et de la détérioration du climat social. Et puis, tout ça va s'accélérer. Et dans les années 50, eh bien, c'est l'année de tous les défis marqués par l'apparition des femmes, entre autres chansons féminines incarnées par une dénommée Keltoum, qui est une prostituée, d'autres, comme par exemple El Washma, qui s'appelle la tatouée, et elle provoque ces femmes un chambardement sociologique en mêlant dans leurs morceaux érotisme torride et nationalisme virulent. Tout ça, bien sûr, évidemment, pour échapper à la vigilance de la censure. Et la plus célèbre, eh bien, c'est celle que vous entendez en ce moment, Sheikha Remeti. Sheikha Remeti, bien, c'est une féministe avant l'heure qui empoisonne l'existence des traditionalistes par son franc-parler, son esprit railleur, sa gouaille et son humour froid et son ironie corrosive. Elle condamne les mariages forcés entre vieillards et pucelles et dans une de ses chansons, ne dit-elle pas qu'y a-t-il de commun entre une salive répugnante et une salive douce et saine ? Par ailleurs, elle se solidarise avec les filles cloîtrées et livre ses impressions sur la virginité. Dans une chanson toujours, elle dit « Vas-y ma fille, romps le carême ». Ou bien elle dévoile dans ses chansons tout ce qui se passe dans la coulisse. « Il m'a gratté le dos et je lui ai tout donné ». Voilà, alors les Sheikhat, c'est comme ça qu'on les appelle, les premières chanteuses de raï hantent les boxons où elles préparent à l'acte amour et font retentir leur voix dans les hyménées pour couvrir, dit-on, les râles et les gémissements des fraîchement mariés. Bien sûr, en 1954, ce sera la révolution algérienne. Là, l'activité de ces troubadours baisse un petit peu parce que tout le monde est dans le maquis. Et puis après l'indépendance en 62, eh bien, ça reprend. Et c'est beaucoup plus tard que apparaîtront des chanteurs de raï comme les Cheb Kami, Cheg Mami et compagnie. Et savez-vous ce que veut dire raï? Eh bien, raï signifie tout simplement, je ne trouve plus le mot, conscience, révélation. Raï signifie volonté, conscience, opinion, décision. Mais dit-on, c'est aussi une onomatopée qui s'approche du yeah anglo-saxon et du tralala français. Sheikha Remiti, une des premières chanteuses de raï dans Remue Ménage, Ondes Femmes Radio Zone 93.8. Et puis, on va prendre nos chanteuses de raï à nous, dans nos langues à nous et dans nos gens qui critiquent ou qui s'occupent de ce qui se passe dans la société contemporaine. Et puis, il y en a quelques-unes que nous adorons et qui nous stimulent chaque mercredi en tout début d'émission. Celles-là, ce sont les Reines Prochaines. Et si vous les aimez autant que nous, vous pouvez les écouter ce soir et demain soir. Donc, ce soir, mercredi 13 décembre et jeudi 14 décembre à la Cave 12 à Genève, au boulevard de la Tour. Il faut être là à 21h à l'ouverture des portes. La Cave 12, c'est minuscule si vous êtes déjà y allé. Mais pour les rencontrer, les Reines Prochaines, c'est un lieu magnifique. C'est déjà là que nous les avions découvertes. Nous avions été emballés. Et ce soir, elles nous chanteront très certainement des chansons tirées de leur nouveau CD. Comment c'est, je crois, plein de beurre, demi-gras. Voilà. Alors, on se retrouve ce soir, Cave 12, boulevard de la Tour, pour écouter les Reines Prochaines. Et là, tout de suite, bien sûr, une de leurs chansons.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My rich is kept by everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears.
Meine Schuhe sind weiß, meine Füße sind blind, doch mein Herz ist schwach, so schwach, so schwach heut.
Voilà. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade. Crie le mal dans l'univers. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade. Danse ronde, aie confiance.
Wenn ich schleiche, wird's ganz schlimm. Will ich fliegen, stürze ich ab. Bleibe ich liegen, mache ich Schlaf.
Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade. Crie le mal dans l'univers. Lève-toi, lève-toi, ma sœur malade. Danse ronde, aie confiance.
C'était donc les Reines prochaines dans Radio Zone Remue Ménage de 93.8. Elles sont ce soir à la Cave 12, nous vous le répétons, à 21h et demain soir. Alors n'hésitez pas à y aller. Et pour aujourd'hui, notre émission s'est terminée. Nous passons encore quelques instants en musique et tout de suite, c'est avec Anne Clark.
the blue sky cools and fades to a neutral tone of grey. No hue, no reflections, silhouettes, skeletons of steel take shape on the horizon. Iron takes the place of air, each breath tasting bitter warm like blood. Night descending in phosphorus little drops into my eyes. Sharper than the moment, my stomach tightens as in accelerating cars or at the certainty of sex. It doesn't pass. Where the day has led me. This is as far as I have come.